Cinquième épisode. À Paris. Chapitre 1. En soirée. Les invités arrivaient. Plusieurs jeunes gens, quatre ou cinq jeunes filles, des Julien, anciennes pensionnaires de Madame Dugard. On attendait un peu, on espérait chaque vendredi Louise Breslot, déjà célèbre, dont la légende mettait une auréole à la maison, mais qui ne venait jamais. Gligli, de toutes, l'avait le mieux connue. Et dès qu'on prononçait son nom, elle s'embarquait dans un récit de la guerre au couteau, couteau à palette, déchaîné entre les deux rivales, les deux grandes vedettes de l'atelier Julien, Louise Breslot et Marie Baskirtseff, Marie Larousse, comme on disait plus tôt, Louise, la piocheuse, l'économe, Marie, la fiévreuse, la dépensière, toujours décavée à la fin du trimestre, empruntant à chacune, payant honnêtement dès que ses fonds rentraient et régalant l'atelier d'un déjeuner de crevettes et de champagne. Gligli comptait très bien la passion tumultueuse de Marie pour le bel orateur bonapartiste Cassagnac. Le portrait qu'elle avait peint pour lui de ses pieds à elle, les plus jolis pieds de Paris, où sont tous les plus jolis pieds du monde, comme on sait, ses petits pieds nus, ravissants, posés parmi des bouquets de violettes, fleurs bonapartistes, ses pauvres petits pieds lacérés ensuite, en peinture, de coups de canif tout à travers la toile, le jour où Marie a pris le prochain mariage de Cassagnac. Et ce fameux soir de carnaval où Cassagnac avait reçu de Marie l'ordre de lui faire préparer un souper et dont elle prescrivait le menu et les fournisseurs, la langouste de chez Duruze, les bonbons de chez Boissier. Marie y était venue avec une amie, deux dominos exactement pareils, et Cassagnac resta indécis, mystifié entre deux charmantes farceuses, jusqu'à l'instant où Marie, impatientée de l'incognito, avança sur le tapis son incomparable petit pied. Gligli, ayant trouvé un nouvel auditeur, narrait avec verve la saga de Breslot et de Baskirtseff. Et Madame Dugard, bourgeoise ordonnée et soigneuse, y ajoutait non sans rancune des détails étranges sur les habitudes de la grande peintresse, après le départ de laquelle on avait trouvé de vieilles tartines de beurre dans des pantoufles turques. La dernière fois qu'elle avait rencontré Breslot en ville, elle lui avait demandé « Qu'êtes-vous devenue tout ce temps, Mademoiselle Breslot ?»« Je suis devenue un grand peintre de portraits », avait répondu l'artiste sans une ombre d'hésitation. Ce qui était d'ailleurs parfaitement vrai. Thérèse avait déjà entendu deux fois ces histoires. Ne connaissant personne des invités, elle s'était retirée près d'une des fenêtres et regardant vaguement, en bas, la petite rue qui donnait sur le boulevard. Et, en face, des maisons aux embrasures grandes ouvertes, vivement éclairées, où passaient des silhouettes. Ses doigts chiffonnaient distraitement le rideau de vitrage, elle se disait « Je connais ce dessin-là. Où donc ai-je vu cette longue palme ? Elle me rappelle quelque chose qui me rend triste. Guy Pur de Nottingham, à Paris ? Pourquoi pas ? Ça se vend dans tous les magasins. Mais j'ai dû voir ailleurs ce feuillage jeté ainsi sur un fond noir avec des lampes qui brillaient au travers. Le logis rose, la fenêtre qui donnait sur le Strand. Le petit balcon, un soir d'épouvante, où elle avait menacé Pierre de se jeter dans la rue. Submergée par le flot des mauvais souvenirs qui rompaient subitement leur digue, elle revoyait Pierre le lendemain de cette scène, farouche, repentant, incompréhensible. Jusqu'au bout incompréhensible, jusqu'à la dernière minute au cottage gris, jusqu'à la dernière lettre post-restante. Derrière elle, des jours ravagés, incendiés. Des cendres et des ruines. Devant elle, une pauvre vie atrophiée où rien ne s'accomplirait de ce qu'une femme a le droit de désirer, un foyer, des enfants. Elle se leva, jeta des yeux presque égarés sur ces gens réunis par petits groupes suivant leurs affinités, leurs vanités, leurs désirs de plaire. Elle se sentait dans un désert. Si, au moins, Marc Maujon était venu. Mais il ne venait pas. Madame Dugard l'avait bien dit, il ne viendra pas. À quoi bon perdre une soirée qu'il pouvait passer agréablement ailleurs? Sa cousine Beaupastel a son flirt, et moi, ah, il me voit assez tous les jours au bureau. Elle regardait la porte qui ne s'ouvrait plus. On entendit un coup de sonnette au vestibule. « C'est la brioche !» cria quelqu'un. et tout le monde éclata de rire. Chaque vendredi, on applaudissait ainsi l'arrivée de la brioche magnifique et dorée, fleurant le beurre fin, qui, tout à l'heure, trônerait au milieu de la table à thé. Non, ce n'était pas encore la brioche, c'était Marc Maujon, que de nouveaux éclats de rire saluèrent et qui n'en parut pas le moins du monde décontenancé. Thérèse gardait ses yeux fixés sur la porte, maintenant refermée. Tout à coup, elle ne vit plus que du noir. Un vertige la fit vaciller. Elle se retint à l'espagnolette basse de la fenêtre. « Qu'est-ce que j'ai, mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai ! » faisait-elle à voix basse. Marc, après être allé saluer la maîtresse de maison, avait l'air de chercher quelqu'un. Il se trouva devant Thérèse et parut la reconnaître subitement. « Vous êtes bien belle ce soir » fit-il d'une voix toute drôle et changée. « Vous êtes une autre personne. »« Merci » dit-elle en essayant de rire. « Il faut donc que je sois bien différente de mon ordinaire pour que vous me trouviez belle. »« Ai-je dit cela ? Alors je suis très maladroit. C'est votre toilette sans doute. Je n'entends rien aux toilettes féminines. »« Pourquoi êtes-vous en noir ? » poursuivit-il. « Vous m'intimidez, vous avez l'air d'une femme du monde. » Et autrement qu'en noir, de quoi ai-je l'air ? Demanda Thérèse, s'efforçant de prendre un ton léger. D'une jeune fille de la Romandie, un peu effarée à Paris. Oui, parce que je suis mal tombée. Je n'ai pas de chance, murmura-t-elle. À Londres, à Paris, je tombe mal partout. Quelle ingrate je suis ! Pensa-t-elle au même instant. Marc Maujon ne protesta pas. Il changea d'entretien. « J'avais quelque chose à vous proposer, » fit-il. « L'exposition des tableaux de Millet s'est ouverte hier. C'est une réunion de chefs-d'œuvre qu'on ne reverra plus tous ensemble. Ils sont venus des quatre points cardinaux prêtés par leur propriétaire. Voulez-vous que nous y allions demain ? Je peux disposer de 2 heures dans l'après-midi. » Thérèse fut prise d'un de ces scrupules artificiels qui paralysaient son heureuse spontanéité d'autrefois. « Invitez plutôt votre cousine, elle se connaît mieux que moi en peinture. » Marc se mit à rire. « Que vous êtes façonnière, dit-il, c'est vous que j'ai l'honneur d'inviter. Ma cousine se passe fort bien de moi. »« Il me choisit comme pis-aller, se dit Thérèse. « Merci, j'accepte, vous êtes trop bon, prononça-t-elle. » Mais en elle-même, elle s'étonnait. « Nous ne sommes naturels ni l'un ni l'autre comme au bureau. » Ce n'est pourtant pas ma robe de chantilly imitation qui peut nous figer ainsi. Ce sera plutôt ce salon Louis-Philippe. À Londres, dit-elle pour continuer la conversation poliment, j'ai vu une exposition du même genre, tous les tableaux d'un seul peintre réunis pour quelques jours. Une merveille si éphémère. De quel peintre ? Dante Gabriel Rossetti. Vous avez vu cela ? S'écria-t-il. Je donnerais je ne sais quoi pour l'avoir vue. » Dans tous ces tableaux, il mettait la même femme, n'est-ce pas ? Dit Thérèse avec quelque hésitation. « C'est une figure qui vous hante longtemps, avec ses yeux bleus qui ont l'air de voir l'invisible. » Sur une question que Marc lui fit, elle parla des esthètes londoniens, hommes et femmes, et de leurs singuliers costumes. Elle décrivit Oscar Wilde, qu'elle avait eu la bonne fortune de rencontrer dans Bond Street, érigeant comme une pique sur son épaule un haut tournesol épanoui. Je connaissais des artistes de Kensington qui connaissaient des gens très chics où Oscar Wilde passait quelquefois le week-end, faire le pont comme on dit en français, je crois. Du samedi au lundi, n'est-ce pas ? Il n'apportait pas d'éponge pour sa toilette, on trouvait cela très sale. En revanche, il déployait sur un meuble un carré de dentelle ancienne « afin, disait-il, qu'il eût dans la maison au moins une chose de beauté. » Tout à coup, elle s'interrompit. « Je fais comme Gligli, c'est contagieux. » Madame Dugard lui dit « Vous vous développez trop, vous faites des conférences. » Madame Dugard n'est pas gentille pour Gligli. « Vous non plus, il me semble, » fit Marc Maujon avec une certaine brusquerie. Thérèse réfléchit un instant. « Non, c'est vrai, je suis détestable avec elle. Le jour viendra où ma conscience m'obligera à lui faire des excuses. Je me connais, je fais toujours des excuses pour finir. » « Tiens, moi, au contraire, je n'en fais jamais, » dit Marc d'un air méditatif. « Naturellement, vous n'auriez pas sujet d'en faire. Vous avez l'esprit indulgent autant que j'ai l'esprit critique. on devine votre bienveillance, vous donnez confiance à chacun. « Allez toujours, merci, je bois du lait !» s'écria-t-il avec un grand éclat de rire. « Et moi, je lui jette tout ça à la tête comme des pavés !» se dit Thérèse. Madame Dugard s'approchait, toute froufroutante de sa belle robe de soie. « Avez-vous bientôt fini de conspirer dans cette embrasure ? On organise une charade. Venez prendre vos rôles. » Le lendemain, Thérèse recueillit son premier compliment parisien. Le temps était charmant, elle étrennait une robe claire d'un joli jaune maïs et une capeline en paille d'Italie garnie d'épis. Le corsage ajusté, corseté, busqué. Était-il, ô ciel, possible de vivre là-dedans ? On y vivait, et même on s'y trouvait bien. Ce corsage moulait exactement le buste, les épaules, la tache du bras. « Ah, madame, que vous êtes bien faite !» prononça d'une voix distincte un monsieur, pas tout jeune, qui croisa Thérèse et qui, deux pas plus loin, se retourna. Thérèse devint rouge sous sa capeline, marcha vite pendant une minute, ce qu'une Parisienne n'eût point fait, puisqu'il suffisait de laisser tomber l'aimable remarque dans le néant. « J'espère, se disait-elle, que ma toilette plaira à M. Marc Maujon mieux que celle d'hier. Aussi, quelle idée ai-je eue de me donner l'air d'une femme de 30 ans ?» Le souvenir lui revenait de sa modeste percale rayée de lignes bleues et de son fichu Marie-Antoinette, de son grand chapeau d'aubépine que Pierre Coume avait aimé, maintenant serré comme des reliques au fond d'une malle. Tout ce qui restait d'un été exquis et d'une grande folie. Où Pierre se trouvait-il en cet instant même, tandis que Thérèse traversait en se hâtant le pont Saint-Michel pour arriver à son bureau boulevard Saint-Germain? Plus j'y pense, se persuadait-elle, plus je crois qu'il est en prison. Il a fait quelque chose de coupable. Ses 100 livres par poste restante, il les a peut-être mal acquises. Un faux? Il était si furtif, si indéchiffrable. C'est un cœur et un esprit que je n'ai jamais sondé. Sondé? Pas même à 1 millimètre de la surface. Il m'aimait, oui, au début. Mais n'était-il pas déjà fatigué de moi quand il a disparu? L'ai-je aimé? Pas comme il le voulait, non. Aimer, ce doit être autre chose, quelque chose d'irrésistible qui vous emporte, un vertige. La volonté ni la réflexion ne peuvent rien contre un vertige.